D'abord, merci pour l'association France-Estonie pour cette série d'événements qui aura lieu ici à Toulouse. 4 conférences autour de mon pays. Quoi dire de plus, c'est des meilleurs ambassadeurs et ambassadrices qui expliquent et donnent aussi un point de vue français peut-être sur ce que c'est Estonie. Je ne savais pas exactement quel est le public qui sera ici dans la salle. Je vois qu'il y a des amis d'Estonie qui connaissent certains et certaines, peut-être même mieux, certains aspects d'Estonie que nous-mêmes, comme Madame Violaine Champetier-Durib. Sur la numérique, par exemple, mais je vais quand même citer peut-être quelques faits très basiques pour vous situer un peu dans qu'est-ce que c'est le pays et peut-être quelques faits très basiques sur géographie et l'histoire aussi, que, comme vous le savez, Estonie, c'est un soi-disant petit pays dans le nord-est de l'Europe. Et petit, c'est une chose relative toujours, parce que vis-à-vis de sa taille géographique, Estonie est plus grand que par exemple la Belgique ou la Suisse. Mais évidemment, nous sommes seulement à 1 300 000, ce qui explique qu'on est en effet un des plus petits peuples, même au sein de l'Union européenne. Il y aura une conférence entière sur l'histoire. Alors, je vais juste vous dire que Estonie, c'est un bout de terre qui a été dominé dans l'histoire par la plupart de ses voisins. Nous avons été régnés par des rois danois, suédois, polonais et également par nos grands voisins russes à plusieurs occasions. C'est peut-être une petite merveille de l'histoire même que ces petits bouts de terre, avec seulement un peu plus de 1 million d'habitants, a pu gagner l'indépendance en 1918. Et c'était au départ uniquement, malheureusement, pour une période de 20 ans. On a perdu à nouveau notre indépendance en 1939, quand l'armée rouge à occuper le pays. On a regagné l'indépendance 50 ans plus tard, en 1991, et on a eu la chance et le challenge aussi de recommencer presque par une page blanche. Ce qui a fait aussi qu'il y avait les décisions qui ont été faites qu'on essaye de s'ouvrir au monde et partir sur un mode de gouvernance moderne et efficace. Voilà, Madame Violaine Champetier-Durib va vous expliquer plus en détail comment et où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Peut-être juste quelques dates aussi vis-à-vis de ceux qui lient Estonie à l'Union européenne. On est devenu membre de l'Union européenne et aussi de l'OTAN en 2004. Et depuis 2011, Estonie a adopté l'euro. On a accédé à l'espace euro. Estonie, c'est un pays qui est parmi les plus en faveur de l'Europe dans l'Union européenne. Les derniers sondages de Eurobaromètre, par exemple, montrent que presque 70% des Estoniens ou d'habitants d'Estonie trouvent que cet espace de l'Union européenne, notre construction commune, ça nous apporte beaucoup et on soutient cette construction commune européenne. Voilà. Mais si vous avez des questions, hein, je veux bien répondre plus tard, mais pour ne pas voler du temps au sujet qui était annoncé aujourd'hui, voilà, je passe la parole. Merci beaucoup.
Je voulais juste quand même dire un mot que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, c'est que Mme Champetier-Derive est secrétaire générale de l'association France-Estonie et qu'elle est ici à ce titre aussi, en représentant la présidente qui n'a pas pu venir, qui voulait venir, mais qui n'a pas pu venir pour des raisons un peu délicates de santé. Voilà. Et donc, il faut que je dise quand même juste aussi qu'il existe une association donc, à Cône-Minervois qui a été créé, qui s'appelle les Amis de Tallinn Pontus de Lagardie. Alors je ne veux pas développer, Pontus de Lagardie est un personnage du XVIe siècle qui a marqué l'histoire de l'Estonie, mais je n'en dirai pas plus. Il faudra venir à la conférence de jeudi, du 9 mai, pour connaître cette histoire qui est totalement méconnue dans notre pays, enfin dans notre région. Et donc cette association les Amis de Tallinn a été à l'origine de la... Enfin, s'est créée à la suite de la création du jumelage entre la vieille ville de Tallinn et Carcassonne. Nous avons Mme Rovelanders, ici présente, qui est une des deux personnes qui est à l'origine de ce jumelage, avec M. Frédéric Guiraud, une personne qui habite à Cône-Minervois. Voilà, je passe la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, moi, j'ai découvert l'Estonie il y a 2 ans. Je travaillais sur des projets d'innovation et de transformation digitale des entreprises. Et j'avais lu que l'Estonie était très en avance. Et donc, j'ai voulu aller voir sur place. Et ce qui m'avait la première chose qui m'a le plus frappée, c'est que, en fait, derrière toute l'histoire numérique que je vais vous raconter, il y avait un véritable projet politique qui consistait à mettre le citoyen au centre de la vie politique, de tout. Et qui est assez à l'antithèse de ce qui pourrait être de ce qu'on connaît en France. Et donc voilà. Et donc, partie de là, j'ai voulu, avec mon co-auteur Jean Spiry, on a voulu comprendre pourquoi c'est l'Estonie qui était le premier pays, la première société digitale au monde, pourquoi ce pays et comment ça s'est passé. Et donc voilà, c'est ce qui a abouti au livre. Je racontais maintenant. Donc là, c'est pour vous montrer la carte. Vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est, vous allez voir, ce qui est important, c'est de voir, c'est quand même un pays qui est, et ça va être important tout à l'heure, assez excentré et très au nord par rapport à tous les pays européens. Et donc, y a aussi une incidence climatique. Les hivers sont rudes. Moi, je peux vous dire que, ayant été à Tallinn un jour de blizzard où il faisait entre moins 25 et moins 30, j'ai compris en quelques secondes pourquoi les Estoniens avaient inventé Skype. Donc, vous voyez que la superficie est donc assez grande par rapport au nombre d'habitants. Et donc, c'est la très faible densité est aussi un critère qui va jouer un rôle très important pour le développement des solutions numériques, sachant qu'en Estonie, il y a une blague, on dit que quand il y a 2 maisons à 500 mètres, c'est un village. Donc les habitats sont très, très, très dispersés. Donc l'histoire, c'est une histoire très, très ancienne. Et ce qui est aussi important, c'est que c'est un des derniers peuples qui a été christianisé en Europe. Et donc, on retrouve, je trouve maintenant, encore, à travers l'amour de la nature des Estoniens, on a l'impression de retrouver des pratiques animistes avec ce culte de la nature. Tout le monde le week-end part dans les forêts, parce qu'il y a à peu près 60% du territoire qui est recouvert par les forêts. Et, Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc toutes les puissances étrangères ont voulu et ont colonisé l'Estonie, et tour à tour. Et ça fera l'objet d'une conférence aussi.
Monsieur Marek Tam, le 20 mai au Goethe-Institut.
Voilà, et qui est une conférence très intéressante parce qu'il raconte quels sont les rapports d'équilibre et le rôle de l'Estonie dans tous ces, toutes ces batailles géopolitiques. Et donc, sa situation géographique la raison des appétits étrangers dont certains sont encore un peu présents à notre époque. On va passer à la naissance de l'État numérique, de l'État plateforme estonien, qui est c'est mis en place à l'occasion de la c'est pas l'indépendance, c'est la reconquête de l'indépendance qui avait été déjà proclamée en 1918. Et à cette époque-là, il y avait tout à refaire. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, le salaire moyen en Estonie début des années 90 était de 35 euros par mois. Donc c'était vraiment une économie qui était complètement exsangue. Il y avait encore des colcos, des sofcos, donc c'était vraiment, ça sortait de l'économie communiste avec énormément de pauvreté, un grand traumatisme aussi, puisqu'il y avait eu des politiques de russification avec de l'importation de populations russophones et l'interdiction de parler la langue, alors que la langue est vraiment un vecteur de cohésion nationale qui est très 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 important autour duquel en fait se fédère toute l'identité estonienne. Et énormément de déportations en Sibérie, à tel point que les générations qui ont plus au-delà de 75 ans, il y a deux femmes pour un homme. Un déséquilibre total et des déportations qui ont touché même des enfants. Un traumatisme vis-à-vis de l'occupation soviétique et qui est aussi à travers toute la bureaucratie que ça a pu générer. Et donc, en 90, l'enjeu des personnes qui ont pris en charge la gestion naissante du pays était de se dire comment est-ce qu'on va faire pour que les gens aient confiance dans l'État, alors que pour eux, l'État, c'est tout ce qu'il y a de pire, à la fois au niveau des libertés individuelles, de la vie quotidienne, etc. Et ils se sont dit, il faut qu'on fasse le contraire de ce que peut être un État totalitaire communiste. Et donc il faut qu'on ait un État complètement transparent et qu'au lieu de demander 15 000 tampons aux gens, etc., il faut que tout soit facile et que les gens aient qu'une envie, c'est d'utiliser nos services et qu'on soit au service des gens. Et donc c'était la base. Ensuite, il y avait un problème budgétaire de savoir comment est-ce qu'on va créer une infrastructure étatique avec un tout petit budget. Donc il y avait les Américains et les Finlandais ont proposé des solutions informatiques, mais qui excédaient le budget de l'époque. Et les Estoniens, d'ailleurs, sont numéro un mondiaux de l'équilibre budgétaire de l'État. Dans la Constitution, le gouvernement n'a pas le droit de proposer un budget qui ne soit pas équilibré. Donc ça, tout ça vient de là. Et c'est aussi pour un souci de garder l'indépendance, de ne pas s'endetter et de ne pas être redevable vis-à-vis de puissances économiques étrangères. L'État a très peu de moyens. il faut créer des services et la population est très éparpillée sur le territoire et donc il faut trouver des solutions peu coûteuses et pouvoir créer des services publics sans avoir à investir dans la création de bâtiments publics parce que c'était trop cher. Et c'est là que il y a toute une équipe très jeune et très visionnaire qui se sont dit que l'informatique pouvait présenter une solution et pouvait remédier à toutes ces difficultés qui pouvaient apparaître des obstacles, mais qui, en fait, du coup, maintenant, ont créé un modèle que le monde entier envie. Et donc, la première étape a été complètement renouveler la classe politique, le personnel, etc. Ce qui n'a pas été fait dans d'autres pays, d'autres anciennes républiques soviétiques. Et on voit la différence actuellement. Je sais que moi, je suis allée récemment en Bulgarie, où il y a quelques traits communs dans l'histoire et aussi dans les capacités mathématiques et informatiques. Et le résultat n'a rien à voir. Et donc, on voit à quel point l'importance des décisions qui ont été prises à cette époque ont permis la réussite qu'il y a aujourd'hui. Et il y avait aussi un point important, c'est que les banques avaient les mêmes défis que l'État. Et sachant que les banques naissantes, puisque l'économie se redéveloppait, n'avaient pas non plus de quoi ouvrir des succursales partout. Et donc, dès le début, s'est constitué un partenariat public-privé assez unique au monde, où l'État s'est co-construit avec les banques, les sociétés télécom et toutes les sociétés naissantes de technologie. Parce qu'il y avait une vraie ressource qu'avait l'Estonie, c'était ses ingénieurs, et un niveau d'ingénieurs très très élevé, et qui ont été la base de cette réussite. Donc il y a eu aussi une vision complètement holistique de se dire on ne va pas laisser personne de côté. Donc il faut que, si on veut que ces solutions marchent, ça puisse marcher partout. Donc il n'y a pas de zone blanche ni de zone grise en Estonie. Internet est disponible partout. Donc ce n'est pas partout de la fibre. Il y a des solutions par satellite, etc. Mais il n'y a aucun endroit où quelqu'un est... pénalisé parce qu'il habite trop loin d'une agglomération ou d'un endroit où on peut avoir Internet. Et il y a eu aussi, en 96, toute une politique pour former la population à Internet, puisque c'était vraiment les tout débuts. Et là, c'est pareil, il y a eu une collaboration entre l'État et les banques, c'est-à-dire que le personnel des banques a participé à la formation de la population, et ça s'est fait de façon très pragmatique à l'estonienne. Parce que quand on évoque ça en France, on dit alors comment ils ont fait, ils ont organisé, etc. Ben, oui, pratiquement, alors quelquefois les formations étaient dans les supermarchés, parce que c'est là où on touchait le plus la population, et on formait les gens dans les supermarchés, c'était aussi dans les bibliothèques, il y avait aussi des bus qui tournaient dans les campagnes, mais il n'y avait pas un modèle fixe de formation, il fallait juste que tout le monde soit formé en fonction des ressources qu'il y avait partout. Ce qui fait que maintenant, en fait, moi c'est une question que j'ai posée la première fois que j'y suis allée, on se dit, ouais mais c'est très bien tout votre système qui est complètement informatisé, mais alors les seniors, les pauvres seniors, comment ils font ? Et en fait, ça les fait beaucoup rire, parce que les seniors, ils ont été formés il y a 20 ans. C'est eux qui utilisent le plus nos services. Donc, voilà. Et maintenant les enfants sont formés à l'école de façon... Alors, voilà. Je parle... truc est bloqué. Voilà. Sont formés à l'école. Et pour vous donner un exemple, un petit Estonien de 12 ans en moyenne parle couramment anglais, c'est codé et fait s'est pitché, donc il s'est présenté un projet comme s'il était une start-up et il fait Marcius le petit robot qu'il a programmé et construit lui-même. Donc je peux vous dire, je les ai vus en train de courir après leur robot, c'est impressionnant. Alors, en Estonie, on fait tout en ligne, donc c'est 99% des services administratifs, sauf trois choses. Alors, est-ce que vous avez une idée des trois choses qu'on ne peut pas faire en ligne en Estonie? Oui, se marier. Après, il y a le contraire. Divorcer. Et le troisième, c'est acheter un bien immobilier. Tout le reste, vous pouvez le faire en ligne. Et c'est-à-dire que vous pouvez le faire non seulement en ligne, mais vous pouvez le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'heure qui vous convient. Donc tout ça repose sur trois piliers. Il y a une autoroute informatique qui s'appelle X-Road, qui veut dire le carrefour, et qui est en fait un système qui permet aux administrations de se parler entre elles, d'échanger avec des systèmes d'API. Et je sais pas, est-ce que vous savez combien de fois on vous a demandé votre date de naissance ou votre adresse ou votre numéro de sécurité sociale, votre téléphone, votre email, voilà. Donc là, vous n'avez pas, on ne vous demande pas ça. Vous avez directement, c'est organisé pour que l'administration, les ministères, tous les systèmes se parlent entre eux sans jamais vous déranger. C'est inscrit dans la loi en Estonie que l'État n'a pas le droit de vous demander deux fois dans votre vie la même information. Donc voilà, ça fait partie de ce qui fait rêver en Estonie. Ensuite, vous avez cette infrastructure. Vous avez un système d'identification numérique. Donc c'est une carte d'identité numérique avec une puce qui est française d'ailleurs. Et qui sert d'identification avec deux codes PIN. Et donc, vous loguez. Alors, les ordinateurs estoniens ont un accès direct spécial pour mettre la carte. Quand on n'a pas d'ordinateur estonien, on a un petit lecteur qui ressemble, ça se branche un peu comme une clé USB, et on se logue. Et à ce moment-là, on a deux codes PIN, un code PIN pour s'identifier, un code PIN pour les signatures électroniques. Et ensuite, vous avez un portail d'accès unique pour tous les services de l'État. Donc vous avez un portail unique sur lequel vous vous loguez, donc vous pouvez vous identifier, et ensuite quand vous cliquez sur n'importe quel service, vous allez, ça va être votre dossier qui va s'afficher, vous allez être directement, on ne va rien vous redemander. Alors là, il y a la tour Eiffel qui a pris un coup. La signature électronique et toute cette organisation permet de gagner 5 jours par an en démarche administrative. Donc ça, c'est uniquement pour les démarches administratives vis-à-vis de l'État. Comme cette plateforme permet aux entreprises privées aussi de se loguer, c'est un peu comme un App Store en fait, et les entreprises peuvent loguer leurs services. Par exemple, si vous voulez aller sur votre compte Orange ou Free, ça sera le même système, vous pouvez utiliser, vous identifier pareil pour votre compte en banque aussi. Vous n'avez pas besoin de refaire tous vos codes, et donc vous allez gagner un temps fou. Et donc si on cumule à la fois le temps gagné vis-à-vis des démarches administratives classiques et la gestion de votre vie quotidienne, vous pouvez arriver à carrément 10 jours. Donc ça vous fait 10 jours de libre par an, auquel vous pouvez soit partir en vacances, soit travailler plus, voilà. Vous avez l'économie qui représente, c'est pour ça qu'il y avait soi-disant une tour Eiffel qui n'a pas voulu s'afficher. Ça représente l'économie de papier par mois, en Estonie. Donc pour 1,3 million d'habitants, donc transposé à la France, ça pourrait représenter 60 fois 300 mètres de papier par mois au niveau des économies. Voilà. Donc vous avez 99% des ordonnances qui sont complètement digitalisées. Donc quand vous allez chez le médecin, vous ressortez les mains vides. Et par contre, quand vous allez à la pharmacie, vous donnez votre carte. La pharmacienne va accéder à votre dossier, mais que à la partie ordonnance, pas au reste. Et elle va vous délivrer votre, non seulement vos médicaments, mais tout va partir directement à la sécurité sociale et vous n'aurez aucune démarche à faire. Donc ça, c'est un schéma pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et vous voyez, ce qui est en vert et en jaune, ce sont des entreprises privées. Donc il y a à la fois toute la structure qui existe pour l'État et les entreprises privées qui peuvent bénéficier de ce système. Pour vous raconter comment se passe par exemple une naissance en Estonie, en fait, au départ, les médecins n'avaient aucune envie d'être des officiers d'état civil. Et donc, il y a eu un système qui a été créé. Et au moment où le médecin rentre dans le système, le poids, la taille du bébé, son rhésus, etc., ça crée l'identité du bébé. Dans les 20-30 minutes qui suivent, les parents reçoivent un mail de félicitations du gouvernement. Et le bébé part dans le système et du coup, il y a toutes les, si on veut, les inscriptions automatisées pour l'école, les crèches, les prestations sociales et tout se fait de façon automatique. Donc ça, c'est un petit récapitulatif chronologique, parce qu'en fait, ça ne s'est pas fait en un jour. Là, on voit le résultat qui n'est pas final, parce qu'il est toujours chaque année, et même plus souvent que chaque année, il y a des nouveaux services. Mais ça s'est fait petit à petit. Vraiment, ça a commencé en 2000, par les impôts. Et pour que les gens adhèrent, il y a un signal fort qui a été envoyé, qui était de dire si vous déclarez vos impôts en ligne, si vous avez des trop-perçus, on vous le rembourse en 7 jours. Donc ça a beaucoup motivé les gens. Ensuite, il y avait le système de M-parking, donc les parkings, le paiement parking par mobile. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, les Estoniens ont la particularité de toujours trouver des solutions les moins coûteuses possibles et les plus pratiques possibles. Et le M-parking, c'était donc pour gérer le stationnement et éviter aux municipalités d'avoir des coûts avec des parkmètres. Et du coup, ça a été une des premières applications qui a été développée sur la e-fraud. Ensuite, il y a eu en 2005 le vote électronique. Donc en Estonie, vous pouvez voter de n'importe où, depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone, quel que soit l'endroit où vous soyez dans le monde. Vous pouvez, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous ait mis un pistolet sur la tempe pour vous obliger à voter pour un certain candidat, vous pouvez revoter tant que vous voulez pendant 7 jours. Et si vous voulez, et vous changez d'avis, vous pouvez même aller voter physiquement le dernier jour. C'est le dernier vote qui comptera. Voilà. Et donc là, il y a eu des élections début mars. Et il y a un Estonien qui travaillait au programme d'e-residency qui a voulu prouver qu'on pouvait voter de partout. Et alors, il trouvait que le sauna, c'était trop facile. Et donc, il a montré qu'il avait eu le temps de voter pendant qu'il allait dans le bain glacé du sauna. Comme ça dure pas longtemps, c'était pour montrer que c'était vraiment très rapide. Dans les différents services intéressants, il y a toute la création du dossier médical, donc qui en Estonie fonctionne depuis 2008. Je ne sais pas si vous avez reçu les mails d'Amélie ou de la Sécu sur le nouveau. Voilà, c'est pas tout à fait, on n'y est pas tout à fait. Et donc, avec ce dossier médical, vous avez tout votre historique. Quand vous faites des radios à l'hôpital, elles vont dans le cloud et on ne vous demande pas de ramener vos radios que vous avez évidemment perdues entre-temps. Et donc, ça crée d'énormes gains et d'économies. Ce qui est important, c'est de savoir que les citoyens sont propriétaires de leurs données. Et que, par exemple, votre dossier médical, quel que soit l'endroit où vous allez sur la plateforme, vous savez quel fonctionnaire a regardé quelle information vous concernant. Et donc, vous avez une traçabilité totale. Vous voyez qu'il y a un médecin que vous ne connaissez pas qui a regardé votre dossier médical, vous pouvez porter plainte. Il y a à peu près 500 millions de requêtes par an sur la plateforme et il y a 700 plaintes par an. Les abus étant très sévèrement punis, parce qu'un médecin qui abuse est interdit d'exercice. Donc, et donc vous savez exactement qui a regardé et vous pouvez voir pourquoi est-ce que la crèche de Tallinn a regardé votre dossier, parce que en fait vous venez d'avoir un bébé et qu'il prépare l'inscription. Voilà, vous avez une traçabilité totale et vous pouvez même dans votre dossier médical choisir de cacher certaines informations à votre médecin. Donc vous avez le droit de choisir que vous ne voulez pas qu'il sache que vous avez telle infection ou tout, des choses comme ça. Par contre, en cas d'urgence, tous les verrous sautent pour qu'on puisse vous sauver la vie. Il y a une solution qui a été créée qui est assez étonnante, c'est l'Iambulance. L'Iambulance, quand il y a une urgence et qu'on vous emmène, dès le moment où on vous prend en charge dans l'ambulance, on va prendre votre carte et avoir votre dossier. Donc on sait si vous avez déjà eu un infarctus ou pas, si vous avez besoin d'une transfusion ou pas. Et au moment où vous allez arriver aux urgences, les urgences auront été prévenues en amont et auront tous vos renseignements. Donc quelqu'un qui a besoin d'une transfusion en urgence, tout sera prêt au moment de son arrivée. Alors, ça, c'est tout ce qui fonctionne pour les Estoniens en Estonie. Les Estoniens, alors là, ça s'est inversé l'année dernière, le ratio d'émigration. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'Estoniens qui reviennent en Estonie. Mais comme les Estoniens ont des cerveaux très bien faits, il y a eu aussi un phénomène de fuite des cerveaux. Et donc, à un moment, le gouvernement s'est dit, mais comment on fait ? On a un problème, comme tous les pays occidentaux, de décroissance de la natalité, de la fuite des cerveaux. Comment on fait pour garder une activité économique dynamique et créer de la valeur sur place ? Parce qu'on n'a pas un climat extrêmement accueillant 6 mois de l'année. On n'est pas très bien situé non plus parce qu'on est un peu excentré. Et comment on fait pour que tout ça ne soit plus un problème et créer de la valeur, donc des sociétés, de la vie économique en Estonie. Et c'est comme ça qu'a été créé le programme des résidents. Et en fait, le programme des résidents, c'est l'accès à toute cette administration pour les citoyens du monde entier. Et donc, en fait, la principale chose que vous pouvez faire quand vous êtes irrésident, c'est de créer une entreprise en Estonie sans y mettre les pieds et de gérer votre entreprise à distance pour pouvoir faire tout ce que vous voulez, mais en restant là où vous voulez. Donc, évidemment, moi, quand j'ai appris ça, j'ai souscrit. Donc, c'est très simple, vous faites les démarches en ligne, ça coûte 100 euros. Il y a la police des frontières qui va juste vérifier que vous n'êtes pas recherché par Interpol ou un mafieux notoire. Et ensuite, vous allez chercher votre carte à l'ambassade et on va prendre vos empreintes et vous aurez cette carte qui n'est pas une carte d'identité, qui ne donne pas la nationalité, mais qui vous donne accès à la vie administrative et économique en Estonie. Et donc, moi, j'ai voulu tester. Donc, j'ai testé, j'ai créé une société. Et comme je n'étais pas ingénieure ni développeuse, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'organise en fait des voyages d'études sur mesure pour les chefs d'entreprise ou les collectivités et leur faire découvrir tout l'écosystème sur place. Et je peux vous dire que j'ai une structure française et une structure estonienne. La gestion d'une structure estonienne, c'est vraiment mais du pur bonheur. Pour créer l'entreprise, je passais par un service provider parce qu'il y a des plateformes qui sont spécialisées pour les e-résidents. Et déjà, j'ai créé d'un café à Paris, donc par Internet, en quelques heures. Le record, c'est 18 minutes. Et ensuite, vous avez à chaque fois, vous avez un petit camembert qui vous dit, vous avez créé 15% de votre société, etc. Et on vous demande des documents. Mais extrêmement rapide. C'est tellement rapide qu'à un moment, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je lise quand même un peu les documents, parce que je trouvais ça tellement amusant que je voulais aller le plus vite possible. Et pour vous donner une idée, l'équivalent d'une SARL en Estonie, les statuts tiennent sur une page. Donc tout est simple, en fait. Tout est rapide. Et tout fonctionne de façon à permettre aux gens de se consacrer à la création de valeur et pas à gérer leur temps en administratif. Donc ça, c'est voilà, l'irrésidence. Maintenant, il y a plus de 50 000 irrésidents dans le monde et plus de 6 000 entreprises qui ont été créées. Et pour les impôts, ça dépend de là où vous créez la valeur. Donc, quand vous êtes dans l'Union européenne, il y a des accords pour éviter la double imposition. Et si vous créez de la valeur en Estonie, vous payez vos impôts sur la société en Estonie. Mais si vous versez des dividendes, vous payerez des impôts sur le revenu en France, si vous êtes résident fiscal français. Si vous créez votre entreprise via le système de résidence en Estonie, mais que vous avez une activité en France, vous paierez les impôts sur l'entreprise, enfin avec les impôts français. Mais la différence, c'est le temps. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est que l'Estonie est devenue un paradis administratif. Donc, ça ne va pas être une opération fiscale, mais ça va être une opération d'optimisation administrative. Et donc, la même année, en 2014, a été créée une première mondiale qui est l'ambassade numérique et donc qui a fait suite à... En 2007, il y a eu une cyberattaque qui a bloqué plusieurs... portail serveur de l'État. Et là, c'est aussi un exemple de la capacité de rebondissement de la culture estonienne. Dès 2008, en fait, s'installait à Tallinn le centre de cybersécurité de l'OTAN. Donc, le droit de la cybersécurité s'écrit à Tallinn. Il y a le manuel 1 et le manuel 2 qui ont été déjà rédigés. Et donc le but de cette ambassade digitale, c'est de créer un backup total de l'État estonien sur un territoire étranger et de pouvoir faire fonctionner le pays en cas d'attaque ou physique ou cyber. Et donc ce data center avec un statut d'ambassade a été implanté au Luxembourg. Et là, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, mais il y a Monaco qui vient de faire la même chose et de créer son ambassade aussi, digitale. Ils viennent de signer pour le faire, en précisant bien que c'était le modèle estonien qui les avait... ça, c'est pour montrer, il y a toujours un côté très, très pionnier. Dans les services aussi qui sont innovants et qui font rêver, même si le sujet n'est pas très gai, dans les derniers services qui arrivent là cette année, il y a le service qui s'appelle eDeath, et en fait c'est la gestion numérique des décès. qui part aussi toujours de ce souci de comment simplifier la vie des gens, et partant du souci que le fait que les proches étaient affectés par un décès et avaient envie de tout sauf de répondre au quatrième recommandé de France Télécom qui réclamait le paiement d'une ligne pour quelqu'un qui n'existe plus depuis plusieurs mois. Donc, en fait, au moment où le médecin légiste enregistre dans la plateforme le décès, tous les services sont prévenus automatiquement. Donc ça va être mis en œuvre cette année. Donc il n'y a plus aucune démarche à faire dans le souci de soulager la vie des citoyens. Donc ça, c'est un exemple de à quoi ressemble le portail de santé. Donc ça, vous voyez que les résultats PISA, l'Estonie est classée dans les numéro 1 européens. Numéro 3 mondiaux. En France, on descend un peu tous les ans et on est 22, 24, ça dépend des matières. Alors, tout ça a généré un formidable écosystème d'innovation. Il y avait un savoir-faire, et il y a toujours un savoir-faire technologique très fort, mais qui s'est vraiment développé avec une force et une puissance qui ont été portées par justement toute cette structure administrative extrêmement allégée. Et le premier événement fondateur de cette Startup Nation, ça a été la création de Skype, qui a été créé en Estonie par 3 développeurs estoniens, un suédois et un danois. Et donc, c'est des personnes qui avaient déjà travaillé sur des échanges, des solutions et de logiciels d'échange peer-to-peer et qui ont donc créé Skype. Et au moment de la revente de Skype, ils ont tous réinvesti, soit dans les entreprises naissantes, start-up de leurs amis, soit eux-mêmes ont recréé. En ce moment, les 20 plus grosses start-up estoniennes ont tous un ex-Skype, soit en cofondateur, soit dans l'équipe. Il y a en Estonie, maintenant, à l'heure actuelle, 4 licornes. Donc, c'est des start-up qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars. Donc, il y a Skype, Playtech, TransferWise et Bolt. Bolt, qui était anciennement Taxify, qui est un concurrent de Uber. Et qui est un très bon exemple aussi, puisque ça a été créé par 2 frères, dont un est un ancien Skype. Donc on peut calculer qu'en Estonie, il y a une licorne pour à peu près 325 000 habitants. En France, on est à une licorne pour 18 millions d'habitants, ou 16 millions, ça dépend comment on compte. Donc c'est pour vous donner le niveau d'innovation qu'il y a et à quel point ça génère. Il y a une chose intéressante aussi, c'est que ça va très vite dans les générations d'innovation. Donc on peut dire que Skype était la génération fondatrice. Ensuite, il y a eu d'autres, deuxième génération de start-up. Et actuellement, on en est à la quatrième. Donc c'est des start-up qui vendent des solutions aux start-up d'avant. Donc 15 ans, il y a déjà 4 générations de start-up qui s'auto-alimentent et qui se recréent avec un renouvellement qui est très très rapide. Donc ça, c'est la carte, c'est voilà, vous voyez à quoi ressemble la carte des résidents. Et donc il faut savoir que ça a rapporté l'année dernière 14 millions d'euros à l'État estonien. Le but est d'arriver en 2025 à 1,8 milliard d'euros. Donc il y a un autre sujet pour lequel l'Estonie est un modèle. C'est que là, vous avez vu, tout fonctionne de façon fluide sans avoir recours au GAFA. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec, avec les GAFA ? C'est que les États traditionnels comme les nôtres, ou comme en Italie, ou en Espagne, ou dans d'autres endroits, avec des États et une histoire beaucoup plus ancienne, les gouvernements ont un peu ignoré la révolution numérique. Et les GAFA se sont engouffrés sur des prérogatives régaliennes numériques. Donc l'identité numérique, la sécurité, la santé, tout ça. Et petit à petit, grignotent les vraies prérogatives régaliennes. Quand, par exemple, on a une solution qui est prise pour l'éducation nationale, avec Microsoft, on ne sait pas ce que deviennent les données. Il y a dans un cloud quelque part en Irlande les évaluations de plusieurs années et de milliers et milliers d'élèves. On ne sait pas ce qui va en être fait, et on ne sait pas si dans 10 ans un des élèves en question va demander un prêt quelque part et on va lui dire oh là là, vous, oh là là, vous êtes nul en maths. De toute façon, vous allez être un chômeur toute votre vie, vous allez payer cher l'assurance. On ne sait pas ce qui se passe. C'est tout le côté vertueux du modèle estonien, c'est que c'est protégé, et les données appartiennent aux citoyens, et personne d'autre ne les utilise. Et donc, ça ne peut pas être utilisé à mauvais escient. Donc là, il y a tout un sujet sur aussi la contradiction de se dire on est en retard, donc on va aller prendre une solution super performante, mais on va prendre la solution chez Google ou chez Apple, etc. Il y a derrière vraiment tout un enjeu démocratique réel. Et donc, dans la vision prospective des Estoniens, donc enfin maintenant sont devenus des spécialistes du futur, puisqu'ils l'appliquent régulièrement, ils voient les États comme des futurs prestataires de services. Et c'est-à-dire que il y a une vision qui dirait que le côté géographique s'étiole. L'État vespalien qu'on a connu sur un territoire géographique, maintenant, quand il y a quelqu'un qui travaille de Thaïlande pour 5 pays différents, les choses sont moins évidentes. Et par contre, les États, avec l'exemple de l'irrésidence, peuvent se mettre à vendre des services à des gens qui ne sont pas résidents physiquement, mais qui vont rester dans leur pays, créer de la valeur dépensée sur place et en même temps pouvoir travailler, etc. Et donc les États, au lieu de vendre physiquement et de prélever l'impôt localement, vous pourrez après choisir d'avoir votre système de santé en Allemagne, d'éduquer vos enfants par MOOC en Finlande, et d'avoir une résidence fiscale en Australie. Donc, c'est une vision de country as a service, de prospective, qu'à l'Estonie. Et voilà. Avec beaucoup d'émerveillement quand on voit ça d'ici.
Voilà, s'il y a des questions, des conférences. Est-ce que vous avez des